part, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous allons prendre le temps de nous arrêter dans cette lettre qui est une lettre très importante, un enseignement très important de l'apôtre à l'église de Jésus-Christ. Écrit à l'église d'Éphèse ou aux églises de la région d'Éphèse, différentes opinions sur ce sujet, mais et lettre qui concerne encore toutes les églises d'aujourd'hui. Les enseignements qui y sont contenus sont des plus importants et des plus précieux. Alors, je prendrai cette étude en nous arrêtant sur des, pas dans tous les détails, pas nous arrêter verset par verset, mais disons paragraphe ou pensée importante par pensée importante. Et ce soir, je vous propose la lecture des versets 3 à 14 du chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, versets 3 à 14. Alors normalement, notamment à partir du verset 4, il nous faudrait prendre notre respiration à fond, puisque tous ces versets ne font qu'une phrase. Quelle phrase ? Quand on nous dit à l'école, faites des phrases courtes, apparemment Paul n'avait pas bien retenu la leçon. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ, en lui, en Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de Dieu, que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. La ville d'Éphèse était une cité portuaire et commerçante importante de l'époque de Paul. Et c'est une ville dans laquelle étaient accumulées de nombreuses richesses, et notamment le temple d'Artémis, de Diane, qui était considéré comme l'une des grandes merveilles architecturales de l'Antiquité. Et face à toutes ces richesses, les chrétiens de cette assemblée, de cette région, pouvaient se demander, mais au fond, que sommes-nous ? Nous n'avons pas de grand temple, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas de nobles, de puissants, et nous sommes face à toutes ces choses qui nous entourent. Et c'est vrai que nous sommes, nous aussi, peut-être dans la même situation. Quand nous sommes dans une ville comme Paris, nous pourrions nous dire, on regarde tout autour de nous, on regarde les richesses de cette ville, on regarde les hommes puissants de cette ville, on regarde tout ce qui s'y passe, et quand on regarde, nous, peuple de Dieu, on pourrait se dire, mais qu'avons-nous de tout cela ? Qu'avons-nous en termes de richesse, en termes de puissance, de notoriété, de popularité, etc. Et on pourrait se dire, mais nous sommes que peu de choses. Alors, à travers cet épître, Paul entreprend de montrer à ses chrétiens la gloire et la puissance qui sont la leur, qui sont la nôtre, à cause de notre vocation, de notre élection individuelle et collective en tant qu'Église. Nous sommes le peuple céleste. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple céleste, béni de Dieu. choisi de Dieu, de toute éternité, pour montrer à tous les puissants de ce monde et de ce monde de ténèbres la sagesse, la richesse et la gloire de Dieu. Parce que c'est lui notre richesse. C'est lui notre gloire. Notre richesse n'est ni dans un temple, quand bien même nous rassemblerions à Notre-Dame, cela ne ferait pas notre richesse car il n'en restera pas pierre sur pierre. Notre richesse n'est pas dans les hommes célèbres, n'est pas dans un compte en banque. Notre richesse, notre gloire est en Jésus-Christ. Alors donc, dans ce passage d'ouverture de cet épître, passage que nous venons de lire, Paul prend le temps de dresser la liste des trésors et des richesses invisibles et aussi inaccessibles aux hommes que Dieu tient en réserve pour son peuple. Dans la période que nous traversons, il est bon de savoir quelle valeur refuge garantit notre sécurité et notre avenir. Tout nous paraît instable. Dans quoi les hommes peuvent-ils investir aujourd'hui en étant sûrs de s'y retrouver? Eh bien, Paul nous montre que nous avons des choses qui sont solides. Et pas de doute, quelles que soient les épreuves et quelles que soient les situations que nous pourrions connaître dans ce monde ou dans nos vies, nous possédons un avantage inestimable sur tout autre homme, quelle que soit sa richesse, sa puissance. Nous avons Jésus en qui sont cachés tous les mystères de la sagesse et de la science. Un trésor, Jésus est un trésor de richesse que le monde et tous ses avantages sont incapables de nous offrir. Alors avons-nous conscience d'être un peuple de gens privilégiés? Peut-être pas en termes de biens matériels, mais en termes de biens réservés dans les cieux et qui valent beaucoup plus que tout l'or périssable de ce monde, car ils sont indestructibles et ils sont éternels. Alors cette première section de l'Épître aux Éphésiens, nous l'avons lue, je vous l'ai dit, c'est donc une phrase tout entière. C'est un texte magistral, quel texte, texte ciselé, texte extraordinaire, qui, certains l'assimilent d'ailleurs à un hymne. À cause de sa structure, ils pensent que c'est un cantique. Ils écrivaient de beaux cantiques à l'époque. Hein. Quand on questionne sur les paroles, en tout cas là, si ça c'était les paroles d'un cantique, il fallait y aller. Hein. C'était pas simple à chanter non plus, vous pouvez le noter. Dans ce passage, Paul va mettre plusieurs choses en avant, nous allons y venir au fur et à mesure, mais au moins deux choses sont à retenir. La première, et je l'ai mis en avant dans la lecture, c'est la centralité de Christ. Christ est au centre de ce passage. Tout ce passage est en lui. Parce qu'il n'y a rien auprès de Dieu qui soit en dehors de Christ. Tout ce qui a de la valeur auprès de Dieu est forcément en Christ. Et la deuxième chose, parce que c'est de ça dont nous parle ce texte, c'est de l'étendue et de la puissance du salut que Christ nous a acquis. Vous savez, nous n'avons pas fini d'explorer toutes les dimensions de notre salut. Le salut, ce n'est pas simplement dire « Seigneur, pardon pour mes péchés et merci parce que tu me fais grâce ». Le salut, ça va bien au-delà de ça. Le salut, c'est une histoire qui commence peut-être aujourd'hui, mais en fait qui était déjà écrite de toute éternité et qui nous amène dans toute l'éternité, jusque dans le ciel. Le salut, ce n'est pas à un moment de ma vie où je fais cette prière de repentance et où je demande à Jésus de venir mon sauveur. Le salut, l'histoire du salut, la puissance du salut nous amène jusqu'auprès de Dieu, jusqu'au trône de notre Seigneur. Alors, pour avoir une vision un peu plus synthétique, ou analytique de ce passage, considérons qu'elle peut se décomposer en trois parties. Et nous allons voir, plus le premier verset, nous allons voir que chacune de ces parties se rattache à une personne de la divinité. Donc une au Père, une au Fils et une au Saint-Esprit. Et chacune de ces parties se termine par ce qu'on appelle une doxologie, c'est-à-dire une louange à la gloire de Dieu, une doxologie de doxa qui veut dire gloire. La première partie, si vous prenez des notes, elle va du verset 3, mais le verset 3 est un peu à part, elle va en tout cas du verset 3 jusqu'au verset 6, elle nous parle du Père. Le Père qui est la source de toute bénédiction. La deuxième partie, du verset 7 au verset 12, elle nous parle du Fils qui est l'agent de toutes les bénédictions. Et la troisième partie, versets 13 et 14, nous parle du Saint-Esprit qui est le garant de toute bénédiction. Alors, commençons par le verset 3, qui est véritablement le verset d'ouverture, pas l'introduction, mais d'ouverture de cette épître. C'est un verset extraordinaire. Et il porte en lui toutes les vérités qui vont être développées ensuite. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce verset situe la source de nos bénédictions, le Père. En lui sont toutes nos sources, écrivait déjà David. Il situe aussi l'étendue de ces bénédictions. Elles sont de toutes sortes. De toutes sortes. Elle nous parle aussi de la nature de ces bénédictions. Elles sont spirituelles. Elle nous parle du lieu de ces bénédictions. Elles sont célestes. Elles sont au ciel. Et enfin, et surtout, elle nous parle de celui qui dispense ces bénédictions, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et les 11 versets qui suivent le verset 3 sont un développement de tout ce qui est déjà contenu dans ce verset. Alors tout commence par une action de grâce, béni soit Dieu. Un jour, quelqu'un dans l'église ici m'a demandé, mais frère, vous bénissez Dieu, mais est-ce biblique de bénir Dieu? Comment peut-on bénir Dieu, puisque n'est-il pas écrit que c'est le supérieur qui va bénir l'inférieur? Alors, comment imaginer qu'on peut bénir Dieu? Et c'est vrai que bénir Dieu peut paraître très présomptueux. Mais en réalité, si pour Dieu, bénir, c'est faire du bien, pour nous, bénir Dieu, c'est dire du bien de lui. Et reconnaître ses bontés. Nous savons que nous sommes inférieurs à Dieu. Et nous ne le bénissons pas en tant que supérieur, mais nous le bénissons en tant que reconnaissant de toutes les grâces qu'il nous dispense. Alors donc, pour Paul, Dieu est la source de toute bénédiction. C'est ce que l'apôtre Jacques écrit aussi au premier chapitre, verset 16 de son épître, où il dit que tout don excellent et tout présent parfait vient d'en haut, il descend du Père des Lumières. Toute grâce excellente prend source et vit en lui, vient de lui. Et tout revient à lui, à la gloire de son nom. Tout vient de lui et tout retourne au Père. Il est le premier et il est le dernier. Il est notre Dieu. À partir de là, l'apôtre entend ensuite nous montrer toute la richesse et la diversité de ses bénédictions divines. Et notons tout d'abord qu'elles nous sont acquises. Il n'est pas écrit que Dieu nous bénira. Mais il est écrit qu'il nous a bénis. Il nous a bénis. C'est déjà un passé. Pour lui, c'est acté. Ce n'est pas une promesse simplement, c'est un fait. Il faut faire la différence, je l'ai déjà dit, entre les faits et les promesses de l'Alliance. Que Dieu nous bénisse, ce n'est pas une promesse, c'est un fait de l'Alliance. Il nous a bénis. Bien sûr, il s'adresse là non à tous les hommes, mais à tous ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur. Ce ne sont pas là ces bénédictions, des bénédictions que Dieu veut donner à tous les hommes, mais il les réserve pour son peuple, à tous ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elles sont de toutes sortes, je le mentionnais, autrement dit, pas d'uniformité, mais une diversité à la gloire de Dieu, comme Dieu nous le montre dans la création. Une idée de plénitude, de multiplicité. Dieu est capable de nous bénir de tant et de tant de manières différentes. Il n'est jamais pris de court, il n'est jamais hésitant, mais Dieu sait, et Dieu a tant de choses en réserve pour nous. Et ces bénédictions, L'apôtre le dit, elles sont de nature spirituelle plutôt que physique et temporaire. Les bénédictions matérielles intéressent les chrétiens et Dieu est prêt à les accorder. Il est prêt à guérir les malades. Et la guérison est une bénédiction matérielle puisque notre corps est fait de matière. Gloire à Dieu, il est prêt à réconforter les malheureux, il est prêt même à accorder la prospérité, la réussite sociale. Dieu n'est pas contre ces choses. Toutefois, Dieu a des biens supérieurs en réserve pour chacun d'entre nous. Les biens matériels, quelle que soit leur valeur, même la guérison, ne dure qu'un temps. Mais à vouloir trop s'attacher aux biens matériels, aux biens de cette terre, nous risquons de perdre de vue les véritables richesses qui sont éternelles. Et Dieu veut nous donner ce qu'il a de meilleur, les biens éternels, les biens célestes, que ni la mort ne peuvent nous ravir. Donc ces bénédictions, elles sont célestes. Notez ceci, les lieux célestes sont une expression propre à cette épître. Elle y revient 5 fois. Éphésiens 1:3, 1:20, 2:6, 3:10, 6:12, alors qu'on ne la rencontre pas dans les autres épîtres de Paul. Elle est propre à cette épître. Par cette expression, Paul rappelle qu'il existe une autre réalité que le monde terrestre dans lequel nous vivons. Les lieux célestes sont une autre réalité de nature immatérielle et invisible. Là se trouve à la fois tout ce que Dieu a en réserve pour nous, et Dieu lui-même bien sûr, mais il y a aussi tout ce qui nous est hostile. Confère les puissances mauvaises, Éphésiens 6:12, qui sont elles aussi dans ces lieux spirituels. C'est pourquoi Paul ne nous dit pas simplement qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, mais il ajoute une indication, une précision très importante en Christ. Car il y a dans le monde spirituel beaucoup d'entités auxquelles les hommes s'adressent pour avoir accès à Dieu. Mais il y a beaucoup de faux esprits ou de méchants esprits qu'il nous faut éprouver. L'apôtre Paul nous indique qu'il y a qu'une seule entité céleste qui convient, c'est Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu dans ces lieux célestes. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. À lui et à lui seul, nous faisons référence, car lui et lui seul a été jugé digne d'être élevé par la droite de Dieu et de s'asseoir à ses côtés. Ainsi donc, ces bénédictions spirituelles ne sont pas directement accessibles aux hommes. Elles sont célestes et elles sont dans le Christ. On ne peut pas les trouver parmi ceux qui sont terrestres. Seulement dans les lieux célestes et spécifiquement Jésus-Christ. Jésus est donc le médiateur par lequel nous avons accès à ces bénédictions que Dieu tient en réserve pour nous. Maintenant, considérons que nous ne pouvons pénétrer dans les lieux célestes de cette terre, c'est-à-dire l'atmosphère, que si nous sommes, on va le dire, dans un avion. Si je ne suis pas dans un avion, même si j'ai un parachute, je tombe. Et donc je reste dans les lieux célestes de cette terre aussi longtemps que je demeure dans l'avion. Pareillement, je ne peux pénétrer dans les lieux célestes spirituels qu'en Christ. Hors de moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. À vrai dire, je vous conseille d'y rentrer que par Christ. Oui, parce qu'il y a d'autres moyens d'accès au monde spirituel et au monde céleste que Christ. Mais évidemment, je ne peux et je ne vous garantirai pas de l'aboutissement et des choses que vous trouverez derrière cela. Choisissez le bon moyen. Alors évidemment, être en Christ dans les lieux célestes, c'est pas une réalité physique. C'est pas comme monter dans l'avion, c'est évident. C'est une position de foi dans laquelle nous nous tenons en Jésus, dans cette communion. Quand je suis avec Jésus, quand je suis en Jésus, quand je suis dans cette communion avec Jésus, je suis déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors Jésus est donc le médiateur, il est le moyen par lequel nous avons accès au ciel, et donc par le moyen par lequel nous avons accès aussi à toutes les choses que Dieu tient en réserve pour nous. Et ensuite, il en devient le dispensateur. C'est-à-dire qu'il est celui qui les donne. Il ne les garde pas pour lui-même. Il veut les donner à un peuple qui en reconnaît la valeur. À des hommes et des femmes qui ne seront pas comme Ésaü, qui regarda son droit d'aînesse comme peu de choses puisqu'il le vendit pour un plat de lentilles. Et Dieu le considéra comme profane. C'est-à-dire qu'il a méprisé les bénédictions de Dieu, les bénédictions spirituelles, les bénédictions célestes. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Nous ne voulons pas tenir pour profane, être tenu pour profane devant Dieu, pardon, en négligeant, en méprisant les bénédictions que le Seigneur tient en réserve pour nous. Mais nous les considérons avec la manière dont elles doivent être considérées, c'est-à-dire avec une très grande valeur, parce qu'elles sont, elles sont divines. Et à cause de cela, le Seigneur est celui qui nous les accorde. Et chaque fois que nous retrouvons dans ce passage l'expression « en Christ », et puis même tout au long de cette épître, eh bien nous découvrirons une nouvelle bénédiction spirituelle. La suite du passage consiste en quelque sorte à contempler ce que nous avons en Christ. Depuis notre élection jusqu'à notre héritage. Et nous allons voir que certaines ont à voir avec le ministère du Père, d'autres avec celui du Fils et d'autres encore avec celui du Saint-Esprit. Parlons du Père. Le Père, je le disais, est la source de toute bénédiction. Et Paul met en avant deux bénédictions issues du Père, l'élection et l'adoption. Pardonnez-moi d'avoir des termes techniques, mais enfin, je pense que si les gens d'Antiquité étaient capables de les assimiler, nous, gens du XXIe siècle, espérons que nous soyons encore capables de pouvoir entendre ces mots sans fuir. Excusez-moi. La première bénédiction fait donc référence à l'élection. Allez, parlons plus simplement, disons tout simplement « je suis le choix de Dieu ». C'est ce que ça veut dire. Je suis le choix de Dieu. Paul écrit « en Christ, Dieu nous a élus, choisis ». Alors nous savons bien que les candidats à une élection se présentent rarement dans l'intention de simplement faire de la figuration. Malgré tout, même s'ils n'ont pas beaucoup de chance, les candidats espèrent être élus. Et ils déploient de nombreux efforts pour cela. Or, nous, nous avons été élus sans rien faire. Des fois, même sans être candidat. Choisis non par les hommes, mais par Dieu lui-même. Non pas pour un mandat passager ou non renouvelable, mais pour un mandat éternel. Ainsi, j'ai été au moins le choix de quelqu'un une fois dans ma vie, en tant que chrétien. C'est déjà réconfortant, mais je sais que je l'ai au moins été deux fois. Donc je suis le choix de Dieu, à défaut d'être celui des hommes. Et ce n'est pas une décision inopinée, décision de dernière minute de la part de Dieu, parce que ce matin, en me levant, j'aurai une bonne pensée. Non, cette élection, ce choix, n'ont rien à voir avec mes actions, mes pensées, mes paroles, même ma piété, ma religion. Parce qu'en fait, Dieu m'avait choisi bien avant ma naissance. Bien avant même que mes parents ne songent à me donner la vie. Carrément, dit l'apôtre Paul, avant la fondation du monde. À cette époque où rien n'existait de la création, Dieu m'avait déjà choisi, il m'avait accordé sa grâce en Jésus-Christ. Et il avait déjà inscrit mon nom dans le livre de vie. Vous savez, le Seigneur n'a pas inscrit mon nom dans le livre de vie au moment où j'ai dit oui au Seigneur, il avait déjà inscrit mon nom. Il était là de toute éternité. Il était là. Comment expliquer cette chose ? Ça reste un mystère insondable, vous savez. L'Esprit de Dieu, dit Paul, sonde les profondeurs de Dieu. Nous, nous le remercions. Et il y a des choses qui nous sont très difficiles à expliquer. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il choisis ? Il nous a choisis, l'apôtre écrit, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ainsi, au milieu d'une humanité incrédule, pécheresse, Dieu s'était déjà réservé un peuple saint, un peuple qui lui appartiendrait en propre, son peuple, et qui soit devant lui selon son cœur. Voilà pourquoi Dieu nous a choisis, pour que nous soyons comme il le veut, comme cela lui est agréable, devant lui. Mais n'oublions jamais ceci. C'est en Christ seul qu'il m'a élu. Et je dirais même qu'il n'y a réellement qu'un seul élu aux yeux du Père, c'est son Fils. Parce qu'il n'y a que lui qui fasse tout son plaisir. Quant à nous, par sa grâce, nous sommes des colistiers. Nous accompagnons notre tête de liste qui est Jésus-Christ. Mais c'est lui qui a remporté la victoire. Et c'est à lui que sont allés tous les suffrages et nous nous en bénéficions et nous remercions Dieu pour cela. Le Seigneur a jeté, comme dit Marie, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, de ses serviteurs. Et nous disons merci Seigneur, nous sommes au bénéfice de ta grâce. Pourquoi moi et pourquoi tant autour de nous? Non, je ne sais pas. Dieu sait. Moi, je ne sais pas. Je suis incapable de sonder les profondeurs du cœur de Dieu. Je le remercie. Je suis le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Béni soit le Seigneur. Et ce qui est certain, c'est qu'il y en a d'autres autour de nous qui sont le choix de Dieu. Ils ne le savent pas, mais ils sont déjà le choix de Dieu. Deuxième bénédiction. Je suis fils du Dieu très haut. Paul écrit, destiné d'avance à être ses enfants adoptifs. L'élection, de l'élection à l'adoption. Nous sommes au verset 5 et dans ce verset, il y a un mot qui nous intimide, c'est le mot prédestiné. Waouh ! Les chrétiens se sont déchirés depuis des siècles autour de ce mot. Allez, prenons-le tel qu'il est, décomposons-le, prédestiné. Lorsque un artisan fabrique un objet, il le destine à un certain usage. Eh bien, en créant les hommes, Dieu leur a donné aussi une destination. C'est vrai que certains ont été destinés à être des vases de colère. Mais comme ça, qui suis-je pour évaluer ou juger les plans de Dieu? En tout cas, et puis d'autres, des vases de miséricorde à qui il fait miséricorde. Il les a destinés les uns les autres avant même de les créer. C'était son plan. C'est ce que veut dire prédestiné, destiné à l'avance. Il nous avait destinés. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisque je suis prédestiné, j'ai un destin devant Dieu. J'ai un destin de vie et d'éternité devant Dieu. Et dans quel but le Seigneur nous a-t-il prédestiné? Il nous a destinés d'avance. Nous, simples créatures fragiles et autrefois pécheurs entre les hommes, à devenir ses enfants adoptifs. Et pour Dieu, c'est une véritable destination. Qu'en pensez-vous? Dieu nous destine à être ses enfants adoptifs. C'est important, surtout pour l'époque, parce que adopter une personne, d'ailleurs ça reste vrai dans le droit contemporain, me semble-t-il, c'est mettre cette personne dans la même position et dans les mêmes privilèges qu'un enfant de sang. C'est-à-dire que quand Dieu nous adopte, il nous met au même rang que Christ. Il nous met dans la même position que Christ. Et comme la Bible dit, il nous rend co-héritiers de Christ. Et dans le droit romain de l'époque, on pouvait déshériter un enfant de sang, mais on ne pouvait pas déshériter un enfant adopté. Donc c'était encore plus fort. Et Dieu ne veut pas nous déshériter, c'est certain. Alors sur quelle base l'a-t-il fait? Ça peut peut-être aussi expliquer ce que je disais avant concernant l'élection. Sur quelle base Dieu nous a-t-il destinés à être adoptés? Paul l'écrit là, encore au verset 5. Il le dit, il l'a fait dans son amour. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et il ne peut faire autrement que d'imaginer ce qui pourrait contribuer au bonheur des hommes. Et pour ça, il leur a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et s'il est prêt à considérer le bonheur des hommes, pécheurs, il est d'autant plus prêt à considérer le bonheur des siens. Et dans son amour, il a voulu faire de nous des enfants adoptifs pour que nous bénéficions de tout ce qu'il a en réserve pour nous. Et puis Paul l'écrit à la fin de ce verset, parce que tel était le bon plaisir de sa volonté. Voilà, Dieu a une volonté. Nous savons que ce n'est pas par la volonté d'un homme que nous sommes sauvés, mais c'est par la volonté de Dieu. Et c'était son bon plaisir, dans sa volonté, de faire de nous ses enfants. Et face à cela, eh bien, nous finissons comme Paul le fait ensuite au verset 6 en rendant gloire à Dieu. C'est la première doxologie que je peux résumer ainsi, ce verset 6, verset 5 et 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir bénis en nous choisissant et en nous destinant d'avance à être ses enfants adoptifs. Non pas à cause de nos mérites, de notre piété, mais à cause de sa grâce. Et par sa grâce manifestée en Jésus-Christ. Et devant ça, eh bien, nous sommes contemplatifs et admiratifs devant cet amour de Dieu manifesté pour nous. Ça, c'est le Père, le source de toute bénédiction. Maintenant, du verset 7 jusqu'au verset 13, il est question du Fils qui, lui, est l'agent des bénédictions. Je l'ai souvent enseigné, la grâce divine est indirecte. La grâce de Dieu n'est accessible qu'en un seul lieu de l'histoire des hommes. Vous ne la rencontrez pas au coin de la rue, au coin d'un carrefour. Mais vous ne la rencontrez qu'en un seul lieu, la grâce. C'est à la croix de Golgotha. C'est le seul lieu où la grâce de Dieu est accessible. En tournant nos yeux, les yeux de notre cœur, vers celui qui a donné sa vie pour nous. Et si Dieu accorde sa grâce, c'est donc que nous sommes fautifs, coupables. Et il accorde sa grâce à des pécheurs condamnés. Et il le fait avec un but extraordinaire. Il le fait en vue de notre adoption. Ça va très loin, vous savez, la grâce présidentielle. Qui rappelle la grâce royale de l'Ancien Régime, la grâce présidentielle, c'est une grâce qui annule une condamnation, ou plutôt qui transforme une condamnation. Parfois, elle peut l'annuler, mais souvent, elle transforme. Autrefois, la grâce de vie du président, donc transformer une condamnation à mort en condamnation à l'emprisonnement. Mais cette grâce présidentielle n'avait aucune puissance pour réhabiliter un homme ou pour restaurer un homme dans toute sa dignité. Mais la grâce de Dieu a la puissance, non pas simplement de transformer la condamnation, mais de lever la condamnation en la mettant sur un juste et de faire de ceux qui étaient condamnés, non pas simplement des gens réhabilités, mais ses enfants. Ça, il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose comme cela. Mais si la grâce de Dieu se manifeste pour nous, nous l'oublions jamais. Verset 7, c'est parce qu'il y a la rédemption qui est possible. Parce qu'il y a eu un acte de rédemption. Cet acte de rédemption a été accompli par le Fils. Et nous, qui nous appelons chrétiens, nous le sommes réellement si nous avons expérimenté la rédemption et les bénéfices de la rédemption qui sont en Jésus. La rédemption ou le rachat était une pratique bien connue de l'Antiquité qui consistait dans le paiement d'une somme d'argent, une rançon donc. Une rançon pour libérer un esclave ou un prisonnier de guerre. Et le prix de notre rédemption n'est autre que le précieux sang de Jésus. Ni l'or, ni l'argent, mais c'est le sang de Jésus. C'est la seule valeur qui ait de la valeur auprès de Dieu. L'or est périssable. Le sang de Christ demeure éternellement. Et le premier bénéfice de cette rédemption payée au prix fort par Jésus, c'est la rémission des péchés. L'effacement de notre dette. Notre péché est enlevé. Notre culpabilité est enlevée. Et nous devenons des gens libres. Et s'opère alors une séparation du péché. Dieu veut nous détourner du péché. Il ne veut pas simplement nous pardonner nos péchés, il veut nous détourner du péché. Nous en séparer pour que nous ne retrouvions plus dans l'esclavage du péché. Alors non seulement la grâce abondante de Dieu nous a libérés de la culpabilité du péché, qui plus est, et ça c'est quelque chose que beaucoup ont du mal, cette première partie, beaucoup de chrétiens la comprennent et ils pensent que le salut ça s'arrête là, mais le salut ne s'arrête pas là. Je vous l'ai montré, Paul nous le montre à travers l'apôtre des bénédictions qui sont en Dieu, le salut c'est l'élection, mais ça va jusqu'à l'adoption. Et la rédemption ne consiste pas simplement à nous libérer de l'esclavage, à faire de nous des gens libres, mais la rédemption nous donne accès à tous les trésors du royaume de Dieu. Elle fait de nous des héritiers du Père. Elle nous invite à vivre une autre dimension de vie. Je ne suis pas simplement libre de mon passé. Je suis libre pour vivre quelque chose de plus fort. Jésus a dit, tout ce que le Père est à moi, et maintenant, en Christ, tout ce que le Père a est aussi à nous. Et il y a beaucoup de chrétiens qui passent à côté de ça. Et du salut, ils ne comprennent que la dimension du pardon des péchés, de la promesse de la vie éternelle. Mais ils ne comprennent pas, ils n'ont pas encore saisi. Peut-être parce qu'on ne leur a pas enseigné, parce qu'ils n'ont pas réalisé que le salut, mais pas pour demain, le salut dès aujourd'hui, c'est l'accès à l'héritage. Parce que cet héritage, ce n'est pas simplement un héritage pour demain. C'est un héritage à vivre dès aujourd'hui par la foi. Et le salut nous amène jusque-là. Le salut, ce n'est pas simplement l'élection, c'est aussi l'adoption. Tu es fils et fille du royaume de Dieu, fils du Père, pour vivre dès aujourd'hui une vie pleine de richesses, parce que tu as accès en Christ à toutes ces bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Il en est le médiateur, il en est aussi le dispensateur. Je finis maintenant en parlant du Saint-Esprit, versets 13 et 14. Le Saint-Esprit est le garant des bénédictions que nous recevons. Et dans sa mission de consolateur, l'objectif premier du Saint-Esprit est d'assurer la garantie de notre salut. Heureusement que le salut ne dépend pas de notre bonne volonté, ou de nos efforts, ou de notre engagement, même de notre engagement dans les eaux du baptême, parce que s'il dépendait de ça, il reposerait sur pas grand-chose. Heureusement qu'il y en a un qui a pour mission de garantir notre salut, c'est le Saint-Esprit. Paul utilise deux mots. Le premier, c'est le mot « sceau », S-C-E-A-U. Le Saint-Esprit est donc le sceau de Dieu posé sur nos vies. C'est la signature de Dieu sur nos vies, qui démontre que nous sommes la propriété de Dieu. Je ne m'appartiens plus, mais je n'appartiens pas au monde. Je n'appartiens pas à Satan, j'appartiens à Dieu. Et les esprits méchants dans les lieux célestes voient cette signature parce qu'elle est spirituelle, elle fait partie de leur monde. Et elle voit le cachet divin de Dieu, le cachet de Dieu sur notre vie, la marque de propriété, la marque d'authenticité. Hein, c'est ça le sceau, à la fois une marque d'authenticité pour démontrer que je suis vraiment un fils de Dieu, et une marque de propriété, j'appartiens à Dieu. Les hommes ne le voient pas, si ce n'est que par le fruit que je produis. Ça, je dois produire du fruit digne du royaume de Dieu pour le montrer aux hommes. Mais les êtres spirituels, qu'ils soient angéliques, ou qu'il soit démoniaque, voit déjà le sceau spirituel de Dieu sur ma vie. Et ils savent que j'appartiens à Dieu. C'est la première chose que le Saint-Esprit fait. Il met la marque de Dieu sur ma vie. Cette marque qui deviendra visible dans l'Apocalypse. Certains vont porter, vous savez, j'ai déjà enseigné, mais certains portent déjà une marque spirituelle qui est la marque de l'Antichrist. Et il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir le chiffre de la bête pour la porter, mais ils sont déjà marqués. Parce que l'esprit de l'Antichrist opère déjà dans le monde. Et les gens le portent. Et les esprits méchants, comme les anges, voient la marque de l'Antichrist sur beaucoup d'hommes. Mais eux, ils voient la marque du Saint-Esprit sur nos vies. Et un jour, tout comme la marque de la bête sera physiquement portée sur ceux qui n'ont pas accepté Christ, eh bien nous aussi, nous porterons la marque de Jésus sur notre front. Relisez la lettre de l'Apocalypse. C'est le sceau de Dieu qui sera visible. Et puis, deuxièmement, c'est au verset 14, oui, le Saint-Esprit est un gage. Par sa présence dans nos vies, par la nouvelle naissance, à la conversion, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est la nouvelle naissance. Eh bien, c'est là un gage. Sa présence en nous est un gage, c'est-à-dire un avant-goût du type de vie et de la condition qui nous attend dans les cieux. Un acompte en attendant le don total. Le Saint-Esprit en nous, c'est déjà le ciel en nous. Déjà l'éternité en nous. C'est Dieu en nous. Et la douce communion du Saint-Esprit nous parle déjà, mais en prémisse, en avant-goût, de cette pleine communion que nous aurons avec le Seigneur dans les cieux, de manière parfaite, extraordinaire et inaltérable. Alors, avec cette mission du Saint-Esprit, cette double œuvre de signature, sceau et de gage, d'acompte, nous sommes ainsi doublement assurés de la pleine possession de notre héritage dans les temps à venir. C'est-à-dire la rédemption complète, finale et parfaite de tous ceux que le Père s'est choisi, esprit, âme et corps. Mais je veux quand même préciser que, je le dis souvent, Dieu n'a pas mis de limite à ce que je peux posséder du royaume de Dieu sur cette terre. Dieu n'a pas mis de limite, il n'a pas dit, hop, vous, tant que vous serez sur terre, ça ne sera pas plus que ça. Non. Il a dit, mais voilà, tout est à toi. Et comment avancer ? Eh bien, par la foi, par la communion avec le Saint-Esprit. Et si nous voulons aller, nous pouvons aller de progrès en progrès, de connaissance en connaissance, de découverte en découverte, de présence du Saint-Esprit dans notre vie en présence du Saint-Esprit. Dieu n'a pas mis de limite, tu en veux plus, tu en auras plus. Et ça, c'est l'excitant de la vie chrétienne. C'est ça l'intérêt de la vie chrétienne, vous comprenez ? Évidemment, quand la vie chrétienne se mesure simplement, comme vous savez, je dis souvent, il y a deux manières de vivre la vie chrétienne, soit dans la crainte, soit dans l'amour. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, mais la crainte de Dieu ne consiste pas à nous approcher de Dieu, mais la crainte, c'est surtout ne pas trop nous éloigner de Dieu. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la crainte. On ne va pas aller trop loin quand même, hein, mais on est borderline. On sait que si on va trop loin, là, on risque vraiment Mais évidemment, une vie dans la crainte n'a rien de passionnant. C'est le minimum. Mais quand on rentre dans l'amour, l'amour parfait qui bannit la crainte, alors la vie chrétienne devient passionnante. Parce qu'on va de révélation en révélation, de découverte en découverte, de bénédiction en bénédiction, de puissance en puissance. Et on a le royaume de Dieu. Toutes les portes du royaume de Dieu sont ouvertes. Christ est un mystère qui ne demande qu'à être révélé à ses enfants. Christ n'est pas un mystère scellé. Christ n'est pas un mystère inaccessible. Il est pour ceux qui sont incroyants. Mais pour nous qui sommes ses frères, ses sœurs, Christ, c'est mon frère. Jésus, c'est mon frère, c'est votre frère. Mais il nous dit, mais comme un grand frère va prêter, espérons-le, ses jouets, ce qu'il a à son petit frère. Et le Seigneur vient nous dire, mais je veux partager ça avec toi. Et il nous montre tout. Et si nous n'avançons pas, si nous n'en profitons pas, c'est parce que nous boudons dans notre coin ou parce que nous avons d'autres choses à faire. Mais Seigneur dit, mais voilà tout ce que j'ai est à toi. Et il nous dit, ce que j'ai en plus, c'est tout ce que le Père a. Alors, en conclusion, je nous renvoie à l'expression qui marque tout ce passage en Christ. Être en Christ est le privilège immense de ceux qui reçoivent la grâce de Dieu par la foi. Je ne peux y accéder par moi-même. Je ne peux pas accéder à Christ par moi-même. Ni par piété, ni par mérite, ni par tradition familiale. Mais c'est Dieu qui nous place, qui place ses élus, ceux qu'il connaît bien avant la fondation du monde, dans la grâce. Et nous place en Christ. Cette position est spirituelle. Et il est évident qu'elle n'est compréhensible que pour ceux qui croient en Christ. Parce que là, nous parlons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Et pour ceux qui n'ont pas accepté Christ comme leur Seigneur, ce sont des choses qui leur passent au-dessus de la tête. Mais pour nous qui reconnaissons en Jésus notre Sauveur, notre Seigneur, le Fils de Dieu, ce sont là des trésors inestimables. Cette position donc est spirituelle, compréhensible par la foi. Mais là, tout ce que Paul vient d'écrire d'une manière si belle, si magistrale, est tellement important, tellement important, qu'il revient ensuite dessus, notamment au verset 16, 17, et il va prier le Père. Il va prier le Père, s'arrêtant en disant, mais Seigneur, ce que je viens de leur dire là est tellement important que je te prie de leur donner un esprit de sagesse et de révélation dans cette connaissance. Parce qu'il se dit, mais j'ai essayé de leur transmettre au mieux, mais maintenant, toi, vas-y. Seigneur, ouvre leurs yeux. Ouvre leur entendement. Ouvre leur esprit. Ouvre leur cœur pour qu'ils puissent saisir ce qui est écrit là. Pour qu'ils puissent saisir et vivre ta parole. Parce que c'est ça, la vie chrétienne. Seigneur, ouvre-nous les yeux pour que nous contemplions l'étendue, la beauté, la richesse, la puissance de tout ce que Christ tient en réserve pour nous dans les cieux et qu'il est prêt dès aujourd'hui à déverser abondamment sur nous par son esprit. Nous en parlerons la semaine prochaine, Dieu voulant. Nous parlerons de cette prière. Nous demanderons au Seigneur de nous ouvrir les yeux sur tout ce que nous venons de partager ce soir. La vie chrétienne est excitante. Il n'y a rien, il n'y a pas d'aventure plus grande. Vous savez, on n'aura certainement pas fini sur cette terre. Que dans le ciel, il y aura encore tellement à découvrir concernant Dieu. Alors il n'y a rien de plus triste qu'un chrétien qui pense avoir fait le tour de son salut parce qu'il a fait une prière de repentance, parce qu'il vient de temps en temps à l'église pour s'assurer le minimum. Quelle tristesse, il passe à côté de tant de choses merveilleuses. Notre Dieu extraordinaire. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, oh, nous, quand nous lisons ce que l'apôtre Paul est capable d'écrire, même si c'est vrai, s'il était inspiré par ton esprit, nous disons qu'il avait une compréhension des choses du royaume de Dieu. Il le dit plus loin, c'est vrai, dans l'Épître, Seigneur. Il avait une compréhension. Et je crois que même, Seigneur, c'était plus qu'une compréhension. Il vivait ce qu'il écrivait. Et quelque part, Seigneur, ça devrait nous rendre jaloux. Je crois qu'il écrit ça pour exciter notre jalousie, afin que nous aussi, Seigneur, nous puissions non pas simplement lire ça comme de la théorie, comme de la doctrine, mais, Seigneur, comme une réalité, parce que tu nous as bénis. Tu nous as ouvert le ciel. Christ a ouvert le ciel pour nous. Christ a ouvert les trésors de Dieu pour nous. Et c'est ça la vie chrétienne, Seigneur. La réalité de la vie chrétienne est là et trop souvent nous passons à côté. Ce soir, Seigneur, si je veux retenir qu'une chose, c'est toi. C'est toi. Toujours te replacer au centre de ma vie, au centre de ma foi. Je veux graviter autour de toi, Seigneur. Je veux me réchauffer à ta lumière, à ta chaleur, à ta présence. Je te veux pour ma vie, je te veux, Seigneur, pour ma famille, pour mon ministère, pour l'Église. Seigneur, plus de toi dans cette année. Et je te prie aussi de nous aider à mieux comprendre l'étendue du salut. Que nous ne contemplons pas, Seigneur, contentons pas d'une prière de repentance, mais que nous soyons véritablement dès aujourd'hui les héritiers du royaume de Dieu. Je suis, nous sommes le choix de Dieu. Je suis, nous sommes fils et filles du royaume de Dieu. Fils et filles du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ. Merci de nous amener à vivre une autre dimension. Une dimension céleste, éternelle et spirituelle. Amen.